Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten aussi, Kevin Diaz également. Dans une demi-heure, le drôle de dame pour le foot européen, bien sûr. Julien Cazard à 23h. Il a assisté à l'anniversaire de Neymar, il nous racontera tout à l'heure. Et puis le quiz, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On a des places pour OM Toulouse à gagner. Et puis tiens, pour votre place à gagner, je le rappelle, on vous offre vos places également pour Dortmund PSG. Pour prendre votre place dans le bus RMC direction Dortmund, vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès maintenant. La Ligue 2, où en est-on du match Grenoble-Le Havre, Edouard?
Eh bien, mission au Stade des Alpes pour l'instant, réussi pour Paul Le Guen et Le Havre qui mène 1-0, le but de Jamal Thiaré à la 53e minute. Les Grenoblois qui tentent de réagir, mais c'est bien organisé du côté des Normands. Du coup, eh bien, les hommes de Philippe Imberger pour l'instant ont vraiment, vraiment du mal à déstabiliser la défense du Havre. 68 minutes de jeu, 64 minutes de jeu, pardon, et toujours 1-0 pour Le Havre.
Merci Edouard, à tout à l'heure. Pendant ce temps-là, en Italie, Naples mène toujours 2-1 sur le terrain de la Sampdoria. Il reste une demi-heure à jouer. On va écouter Christophe Galtier parce que ce qu'il a dit aujourd'hui est très intéressant. Galtier à Lille estime que Rennes, cette année, il dit c'est nous l'an dernier, c'est Lille de l'an dernier. Écoutez-le et ensuite on débat ensemble avec vous, supporters rennais, on vous attend.
Je pense que Rennes, c'est nous l'an dernier. Son jeu est identifié, vous savez tout sur elle, mais elle gagne. Et elle gagne avec des fois des scénarios incroyables. Et il me semble, à l'heure actuelle, qu'ils ont le petit brin de chance, mais c'est pas le hasard. Il y a une part de réussite, mais cette réussite, elle est provoquée. Donc, il faudra se méfier, évidemment, de cette capacité à... C'est une équipe qui presse, c'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en encaisse aussi.
Voilà, et demain, il y a Lille-Rennes, bien sûr. C'est bien pour ça que Galtier parle de...
Très belle affiche.
Exactement.
Tu vois, dans mon trip naïf, à chaque fois qu'il y a une belle affiche, je tombe dedans, j'ai très envie de voir. Et bien là, sur cette journée de championnat,
c'est ce que tu veux voir.
Ah, je t'ai entendu hier. Je suis taqué là-dessus.
Je t'ai entendu hier, ça sonnait faux quand même. Franchement, assume un peu.
C'est fou, quoi.
Bah non, mais je me dis pas que t'es excité.
Je vais pas inventer un truc, il est idiot celui-là.
Ah, donc t'es encore excité, sachant que.
Je te promets, Lille-Rennes, je me dis que ça va être j'ai envie de le voir comme une très belle affiche. Je suis à fond.
Ah oui.
À chaque fois, sur chaque journée de championnat,
Normal, c'est le troisième contre le quatrième.
Je suis déçu.
Donc ça veut dire que Galtier voit bien Rennes terminer sur le podium, en gros. Est-ce qu'il a raison?
On commence à tous les voir, là.
Est-ce qu'il a raison, Galtier, les gars?
Bah, le problème, c'est qu'il y a quand même énormément d'équipes qui sont encore dans la course pour cette troisième place, voire pour la deuxième place. Donc, certes, Rennes fait partie
pour
des.
Pour la deuxième, il commence à en avoir un peu moins, quand même.
Ouais, quand même.
Ils sont quand même à 10 points.
Il y a 3 points entre Rennes et Marseille, c'est pas énorme.
Oui, oui, non, mais les autres, je te parle, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent concurrencer Marseille quand même.
Ouais, moi, il y en a quand même quelques-unes si Marseille continue avec une.
Marseille, attention, ils ont un calendrier un peu compliqué dans les semaines qui viennent là.
Arrête, 4 fois que tu nous
racontes. Attends, calendrier, alors explique-moi, calendrier compliqué, c'est à Saint-Etienne.
Oh là là!
Eh ben, Saint-Etienne.
Oh le chaudron! Non, mais Saint-Etienne, c'est difficile, ils sont 15e!
Non, mais Saint-Etienne.
Évidemment, ils peuvent perdre là-bas.
J'aimerais bien savoir, messieurs, qui est-ce qui a joué Marseille à Survivor contre Saint-Etienne?
Personne.
Genre sûr de gagner, genre.
Personne.
Voilà. Donc,
là, ils vont à Saint-Etienne. Après, ils vont à Lyon. À Lille. Sur les 4 prochains matchs, ils se déplacent 3 fois. Voilà.
Et même si j'ai une bêtise.
Ouais. Ils vont à Lille. Et après, ils reçoivent Nantes. Ils vont à Nîmes. D'accord, parce que, en fait, Lyon, c'est les quarts de finale de coupe.
Donc, ils vont à Nantes.
Là, sur les 3 prochains matchs, ils se déplacent à Saint-Etienne et à Lille. Voilà Marseille. Donc
qu'est-ce qui se passe?
Il reçoit.
Ah bah, si Rennes gagne dans ce temps-là,
mais l'important c'est le podium qui fasse 2 ou 3.
On est en train de faire gagner des matchs contre des places pour Marseille-Toulouse, non? Il y a bien Marseille-Toulouse.
Oui, il y a Marseille-Toulouse entre temps.
Ouais. Donc bon, toute logique normalement.
Ça devrait aller.
Ouais, non, mais il est dur.
Arrêtez de paniquer avec.
C'était pas le sujet, on parlait de Rennes.
Sur l'OM, il y a un écart qui est quand même de plus en plus grand avec Lyon.
Non mais bien sûr. Non mais toi qui nous as vendu Lyon sur le podium,
je disais pas vendu sur le podium. Je dis, je crois leur remontée habituelle. Hein, mais de là à ce qu'ils aient chopé le podium, ça fait longtemps.
Ça commence à se compliquer.
Que je dis que ça va être compliqué.
Mais pour parler de Rennes, oui, en effet, moi je rejoins Christophe Galtier. Alors après, lui le ressent comme ça parce qu'il l'a vécu de l'intérieur avec Lille, bien sûr. Qu'il y a eu de la réussite l'année dernière, mais pas que, parce que tu fais pas une telle saison l'année dernière comme ça que avec de la réussite. Mais il en faut. Et c'est vrai que Rennes depuis un bout de temps temps, bah, l'image de ce match de vendredi, hein, où le scénario est rocambolesque, il y a des signes qui ne trompent pas, ça te donne une force collective en plus, une vraie dynamique qui continue. Les prochains matchs de Rennes vont vraiment être significatifs, à savoir s'ils continuent leur série d'invincibilité, là, à enchaîner, à prendre peut-être 4 points sur 6, sur 2 matchs, un match à domicile, un match à extérieur. Ouais, ça va être difficile d'aller les chercher. Et puis il y a un petit matelas, il y a 6 points maintenant. Kevin, ouais, tu disais, il y a beaucoup d'écarts.
Oui, mais regarde, si Lille les bat, ils reviennent.
Oui, oui, non, mais très bien. Très.
Après, ce qui est intéressant dans ce début d'année 2020, c'est que Rennes donc fait le coup à Nantes de gagner un match qui était quasiment perdu. Et par contre, Marseille, qui est au-dessus de Rennes, fait exactement le même coup au Rennais. C'est-à-dire que Marseille va gagner à Rennes dans un match où tu avais l'impression que s'il y avait une équipe qui devait gagner, c'était bien les rouges et noirs. Et donc, là arrive ce match entre Lille et Rennes. Et je pense vraiment que s'il y a un scénario, comme vient de le décrire Galtier, c'est-à-dire un peu rocambolesque, où les Rennais finissent par gagner et prendre les 3 points, et là, prendraient 9 points d'avance sur Lille, là, je pense qu'ils seraient en effet sur l'autoroute pour y aller.
Bon, ben voilà, donc à suivre.
Ils ont un effectif qui s'est. Oui. Là, ils vont quand même récupérer. Alors, Nzonzi, il va vite falloir qu'il se mette dans le truc, mais ça reste quand même un joueur avec une expérience particulière. Et pour ce groupe rennais, ça peut faire le plus grand bien. Il va y avoir, c'est ce que je disais, avec son arrivée, peut-être des réajustements tactiques aussi. Ça va renforcer le milieu de terrain. Ça va libérer d'autres joueurs. Non, ils ont vraiment un effectif. Il y a des joueurs qui ont récupéré un très bon niveau, qui n'avaient pas du tout ça. Ouais, Rafinha commence à trouver ses marques. Même s'il a encore du déchet parce qu'il joue un petit peu tout seul, un peu trop même, t'as quand même des joueurs, t'as le bon Cabavinga, on en a parlé, Bourigeaud, intéressant, bon, ça reste un joueur, un bon petit joueur de Ligue 1, mais il a commencé à prendre ses marques, à marquer quelques buts. Voilà, il y a des attaquants qui marquent des buts aussi. Non, cette équipe,
c'est surtout qu'ils offrent,
tient la route.
Au-delà de ça, j'ai rien à ajouter sur ce que vous avez dit là, mais surtout qu'ils offrent des vraies sensations fortes à leurs supporters. Ils ont créé un lien en ce moment. C'est le club qui, pour moi, crée le lien le plus fort avec ses supporters en ce moment.
Mais moi, j'étais
en une semaine, ils se font le 4-5, enfin le 5-4, plus le match contre Nantes, qui en plus est leur derby à eux. Bon,
je pense qu'en termes d'émotion, c'est pas mal.
Ouais. Nous, on a été, mais très logiquement, alors que les supporters le vivent pas comme ça, ok, moi, je peux les comprendre. Qu'ils nous trouvent injustes sur la sévérité qu'on a eue à leur égard quand ils se sont fait cogner lamentablement en Coupe d'Europe, ça, moi, je suis désolé, c'est mon point de vue, c'était ridicule. Ça, alors,
c'était décevant.
Pour la Ligue 1, pour ce que ça représente, pour leur niveau. Nous, notre taf, c'est de dire qu'en Coupe d'Europe, bah, c'est une équipe de plus qui a merdé en France.
Ah oui, c'est sûr.
Si eux, les supporters ne veulent pas le vivre comme ça, qu'ils disent, nous, de toute façon, le fait d'avoir gagné la Coupe de France, ça nous suffit, et puis on excuse ça et tout, c'est dans leur droit, ils ont raison. Et de toute façon, ils ont d'autant plus raison que le lien continue d'être fort avec leur club, et ça, ils nous doivent rien à nous, après tout. Et résultat, en championnat, ils sont en train de se faire une super saison, avec des matchs que d'autres équipes ne vivent pas, avec des scénarios hyper intéressants, flamboyants, forts en émotion. Tant mieux pour eux, ils se font leur trip, c'est bien. Et effectivement, il n'y a pas d'autres clubs en France qui offrent ce genre de choses.
Ils ont un vrai chef de banc. Aujourd'hui, on l'a mis en avant.
Ils ont deux chefs.
Non, mais surtout...
ils ont le génie breton, plus que président.
Ouais, voilà. Mais c'est surtout l'entraîneur. Alors après, ça n'enlève rien au président.
Et l'organisateur du barbecue.
Ouais, Sylvain Armand. Mais c'est vrai que leur entraîneur, il a trouvé... Parce que tu parlais de l'Europa League. Moi, j'en ai commenté beaucoup des matchs de Rennes en Europa League. La plupart, même. Ils ont tellement été décevants. Mais même en championnat, ils étaient décevants. Ils étaient pas bons. Et des joueurs qui devaient avoir le niveau de l'année dernière, je n'arrivais pas à le récupérer. Il y a eu beaucoup de changements. Des joueurs qui sont arrivés, là, je disais, ils étaient à la rue au début. Soit ils étaient blessés, soit ils avaient un problème d'adaptation. Et lui, il a réussi à leur faire changer la mentalité quand même. Donc ça, c'est tout à l'honneur de Stéphane. Et aujourd'hui, la réussite, elle passe aussi par là. Il faut avoir un
entraîneur.
L'honneur
de Stéphane et d'un président qui lui a maintenu sa confiance, qui l'a remis en confiance dans un moment où lui-même était en grande panique et ne savait plus comment faire. Toute la période sans résultat, la Coupe d'Europe, l'embrouille avec Grenier, l'ego. Parce que je le maintiens, je le répète, je le disais à l'époque, Julien Stéphane est un type... C'est pas forcément, quand je le dis, c'est pas forcément un défaut. Mais il a un bon boulard. Il se pense déjà être un entraîneur limite
qui est Julien
pour
Stéphane.
La première ligue, ouais. Quand je le dis de façon ironique, mais c'est pas forcément un défaut. Ça dépend de comment tu le gères, ça. Ouais, ouais. Et sur cette période-là, il n'arrivait pas trop à le gérer. L'embrouille avec Grenier, c'était aussi un peu ça, un conflit d'ego. Les mauvais résultats en Coupe d'Europe, la mauvaise passe en championnat. Tout à son honneur de se redresser de ça.
Surtout
et au président de l'avoir maintenu, parce qu'il y a un moment.
Il l'a maintenu, quand même, parce ça a recommencé à gagner.
Surtout, messieurs, que Rennes, Daniel, Rennes a quand même vendu 6 joueurs titulaires. C'est énorme par rapport à l'an dernier. Ben Sebaini, le gardien, Koubek,
ils ont recruté aussi. Arrêtez de dire que tu perds des joueurs.
Mais attends, c'est difficile pour un entraîneur.
Il faut reprendre
un
entraîneur. La mayonnaise, il faut qu'elle prenne.
C'est un travail très, très difficile en 2 mois.
Exactement, c'est pour ça.
De reconstruire une équipe. Moi, j'étais avec un Lorienté, en tout cas, qui ce week-end, et qui me disait, mais qui habite à Rennes, et qui me disait, mais. Alors moi, à la base, je suis pour Lorient, mais il me disait, mais c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de l'équipe rennaise en Bretagne.
C'est très bien.
Il y a plusieurs clubs en France comme ça. Il y a Rennes, et c'est pas parce que Gilbert est là, t'as Strasbourg en Alsace.
Du moment.
C'est les rares clubs où le stade est quasiment tout le temps plein.
Est-ce qu'il t'a dit qu'il était devenu supporter de Rennes à cause de Michael Landreau?
Le stade est plus bien, c'est la Méno et le Parc des Princes.
Non.
Il t'a dit ça, c'est ce que tu me disais en off?
Non,
c'est pas quoi?
Bah, que son copain là était devenu supporter de Rennes parce que Michael Landreau avait pris la tête de avait entraîné Lorient.
Non, mais fallait pas le dire ça.
Dis-le aussi.
Allez, Benjamin est là, il est supporter Rennes au 32-16. Salut Benjamin.
Salut messieurs.
Salut Benjamin.
Bon, Benjamin. T'es d'accord avec Galtier? Rennes, c'est le Lille de l'an dernier?
Non, je suis pas d'accord avec lui. Déjà, je pense que Rennes, ça peut réconcilier certains d'auditeurs et Daniel aussi avec la Ligue 1. C'est un peu le club Saint-Mauré de la Ligue 1 cette année. C'est le club qui est frais, qui est nouveau. Enfin, qui est nouveau, oui, parce que ça fait que 2 ans que ça travaille comme ça. Mais maintenant, la comparaison avec Lille en termes de résultats, elle est, pour moi, elle est fausse. Parce qu'il y a quand même, pour rappeler l'effectif de Lille l'année dernière, il y avait un joueur comme Pépé qui marchait sur l'eau. Et qui fait des différences à lui tout seul, il n'y a pas ça à Rennes. Rennes, c'est plutôt un travail collectif qui est mis en avant. Et la réussite de Rennes dépend aussi des échecs des autres, pour en avoir conscience. On est 9e budget de Ligue 1, on a un effectif qui est bon, mais qui est très loin d'être Lille, Lyon ou Marseille. Si on est là, c'est parce que Lille, Lyon, Marseille, Monaco travaillent très mal.
C'est vrai, t'as raison. Là-dessus, t'as absolument raison, c'est vrai.
Oui, les grosses équipes sont pas à leur place.
Oui, Lyon a quand même un budget pharaonique à côté de Rennes.
Non, mais il a bien raison.
Que Rennes soit devant Lyon, tu peux toujours féliciter Rennes. C'est le côté vert à moitié plein, vide. C'est que Lyon fait n'importe quoi pour être derrière Rennes comme ça. C'est pas possible.
Après, il y a quelque chose de très conjoncturel quand t'as un club comme Rennes. C'est le centre de formation. T'es dépendant, et là, il n'y a pas de régularité parce que tu peux pas contrôler tout le temps. Des nouveaux, des jeunes qui sortent chaque année. En ce moment, à Rennes, c'est le cas. Depuis 2 ans, il y a Kamavinga, là, il y a un petit jeune devant qui s'appelle Kou, qu'on a vu quelques fois en Ligue 1. Ça va être le facteur X qui va faire qu'on va passer d'une bonne à une très bonne saison. Parce que derrière aussi, ça fait des, sans être un épicier, mais ça fait des rentrées d'argent. Et par exemple, là, au niveau du mercato, le salaire d'Enzondi, il est payé aussi parce que les finances sont saines. Donc, le club, dans son ensemble, travaille très bien à Rennes. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'on est dépendant et des jeunes et aussi du duo Stéphane Létang qui fonctionnent très bien ensemble. Je suis d'accord avec le terme boulard de Rennes, hein, de Stéphane, ce que disait Daniel précédemment. Je suis assez d'accord, mais je pense que ça fait partie du très très haut niveau d'avoir des personnalités comme ça.
Mais c'est,
et
à Rennes, forcément un défaut. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, ça a failli poser problème. Bon, il a le droit de se considérer au-dessus. Encore une fois, moi, les gens prétentieux, ambitieux, moi, j'ai rien contre. Il faut juste qu'à un moment, ça rencontre le bon contexte et que à cause de ça, ça finisse pas par déraper et que finalement, s'il s'était fait virer à un moment où c'était un peu tendu, bon, Olivier Létang a pris l'autre option, c'est plutôt de le renforcer, de croire en lui, même dans les moments où il jouait mieux que l'adversaire, mais il perdait. Tant mieux, puisque aujourd'hui les faits ont donné raison. Après, moi, aucun problème. Hein, s'il veut déjà se considérer apte à la première ligue, il vaut mieux qu'il reste à Rennes.
Non, mais sur une analyse où on le voit faire dans ses gestes et tout ça, la frontière, elle est vraiment réduite. Quoi. Ce que je veux dire, entre de la prétention, de l'ambition, le fait d'être sûr de soi, je pense que dans ce milieu-là, et encore plus dans ce métier-là, entraîneur, il faut quand même avoir un. un charisme important, une estime de soi bien supérieure à la moyenne. Quand tu parles à tes joueurs, surtout Stéphane qui vient de rien en fait.
Jérôme, finalement, c'est peut-être mieux pour Rennes. Ils ont un président qui a une vraie personnalité lui aussi se prend pas pour prend pas pour du pipi de chien et après tout il a raison, je veux dire il bosse bien, il a expérience, que l'expérience
il
PSG
un petit peu beau gosse ou
l'expérience le PSG foot le rembourse quoi, c'est non ça. Mais le mec il a fréquenté Ancelotti, il a
bossé
avec Leonardo, il manquerait plus que l'expérience lui ait pas apporté et qu'il ne se sente pas beau pour faire
Bien sûr.
Julien, c'est un dernier point.
Tant mieux pour Rennes.
Ouais, Benjamin, on arrive.
Il faut juste que tout ça s'accorde. Et à un moment, surtout quand il avait mal pris la dernière. Dégonfle deux secondes. Quoi, c'est pas
ce qu'il a. Ce qu'il a
Benjamin va rajouter un truc, Kevin. Attends.
Il y a aussi au niveau communication. Alors, c'est de la communication, mais c'est aussi. Ça se trouve sur le terrain. Depuis l'année dernière, il y a le hashtag tout donné. Que le Stade Rennais sort à foison. Sur Twitter, sur tous les réseaux, etc.
C'est
et en fait, ça
dire.
S'est vachement transmis, d'une part, dans le public, dans les supporters, il y a le côté, on lâche pas. Il y a eu des scénarios de match aussi qui ont fait que, le match de Nantes, vendredi dernier, et je pense que c'est cette force de caractère qui, alors ça peut paraître vraiment bateau, dit comme ça, mais qui peut faire la différence sur les matchs moyens. Sur les matchs contre Nantes, le match de Rennes, il est très mauvais, le derby, il est très très mauvais pendant 80 minutes, Rennes joue mal. Mais il y a le côté où à 2-2 on égalise, on fait pas comme Bordeaux, on fait pas tourner la balle comme hier soir, on va chercher le 3-2. Alors c'est tout bête, mais c'est là où Rennes a pris, je crois, 14 points. 15 points depuis le début de saison en étant mené au score.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Là où Stéphane a été très bon, c'est dans la façon d'insuffler un état d'esprit. C'est le fameux principe de l'entraîneur entraînant. C'est-à-dire que on a l'impression vraiment que ses joueurs ont envie de le suivre. Alors il y en a certains comme avec Grenier, on sait que ça n'est pas trop passé, mais en tout cas avec la majorité, on voit qu'il a l'appui de sa direction, même s'il y a eu un petit passage difficile. Mais ça arrive à tous les entraîneurs. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je sais pas si tu l'as noté, mais lorsque Rafinha marque son premier but, alors il connaît pas beaucoup de mots en français, je pense, mais il crie tout de suite allez, allez, et comme pour dire à ses partenaires allez, on se replace parce que on va aller chercher plus dans ce match. Et ils l'ont fait.
Merci Benjamin en tout cas.
Salut les gars, bonne soirée.
Moi j'aimerais juste sur le Lille-Rennes de demain parler deux secondes d'Osimhen, si vous le voulez bien. Alors
l'as vu contre.
En fait,
tu l'as vu.
C'est marrant parce que samedi.
C'est un joueur de vitesse ou pas?
Alors attends, je ne veux pas en venir là. Samedi, il y avait le match Paris-Montpellier à 17h, et après, il y avait le match de 20h. Donc, moi, j'ai vu Neymar, et après, je regardais attentivement Osimhen. Osimhen, c'est un jeune gars qui a 21 ans, qui a un parcours assez dingue, parce qu'il était vendeur de rue au Nigeria et tout. Ce type-là, bon, franchement, techniquement, moi, je me suis vraiment concentré sur lui pendant une bonne partie du match et tout. C'est vraiment ce qu'il arrive à faire à 21 ans, c'est impressionnant. Vous avez le frappe qu'il a mis sur la barre avec un contrôle extraordinaire en première mi-temps, là. Et surtout, il est exemplaire dans l'attitude. Et quand tu voyais, par exemple, ça tranchait avec ce qu'on avait vu avec Neymar avant. Exemplaire avec les adversaires. C'est-à-dire que le mec, quand il y a des contacts, quand il fait faute, il va s'excuser, il relève le gars, il va mettre. Non, mais ouais, mais Jérôme, mine de rien, ça compte. Avec les coéquipiers, exemplaire.
Le seul truc,
nickel avec l'arbitre.
C'est tout match, là.
Quand t'as un jeune mec comme ça de 21 ans, qui est bon, qui est le meilleur de son équipe, et qui fait ça, chapeau.
L'exemplarité, c'est
l'exemplarité.
Excuse-moi, j'ai du mal à comprendre.
Bravo, Osimhen.
Est-ce que c'est possible de dire que c'est un joueur stratosphérique?
Ouais, mais et pourquoi,
exactement
pourquoi dans la phrase Osimhen, tu mets Neymar?
Juste après le match de Neymar.
Je te pose une question.
Et que lui aussi fait des gestes techniques.
Est-ce qu'on peut trouver que c'est un joueur
Osimhen est plus fort que
pharaonique?
J'ai pas dit ça.
Mais le problème, c'est que les avocats comme toi, le problème, c'est que vous n'écoutez pas le reste.
Mais c'est pas les avocats,
vous défendez votre client.
Mais pourquoi mon client? Il me sert à quoi, Neymar, moi?
Mais c'est ton client.
Moi, au contraire.
Alors,
c'est mon client.
Alors, enlève ta robe d'avocat.
Mais pourquoi? Parce que je suis pas d'accord avec toi, en fait, dans ton analyse. Donc, j'ai tort.
C'est pas une analyse. Est-ce qu'on peut trouver que c'est un joueur extraordinaire? Extraordinaire, ouais. Et qu'il est, il a une attitude de sale type.
Mais
est-ce que tu m'autorises à penser ça? Est-ce qu'une grande partie des gens au Brésil, son pays, considère et ont la même opinion que moi? On a le droit ou pas?
Mais ouais. Et ceux qui ont la même que moi,
considérer par exemple que
est-ce qu'ils sont cons ou pas?
Il y a d'autres stars dans le foot qui dans leur attitude me séduisent plus que lui. Mais ça m'empêche pas de considérer que c'est un joueur énorme.
Mais Daniel, juste après. Mais pourquoi tu me reprends comme ça? Est-ce que je t'ai dit le contraire?
entre les deux, Gilbert, c'est bien.
Moi, je pense pas comme toi, j'ai le droit, non?
Tu as le droit aussi.
Voilà. Oui. Bon, bah écoute,
si et pourtant,
les gens au Brésil qui pensent que c'est un bon mec, ils sont cons comme moi ou pas? Non, mais il y en a. En France, des gens qui
caractère, il y en a pas beaucoup.
Allez, le mot de la fin pour Kevin là-dessus.
Daniel, on peut aussi, donc en parlant d'Osimhen et de l'exemplarité, peut-être qu'il a connu aussi d'autres choses dans la vie qui l'ont amené à un peu plus d'humilité, et ça peut faire du bien.
Ah oui, il a été moins gâté que Neymar, ça c'est sûr.
Donc ça c'est clair, parce que les gens oublient ça, et moi j'ai beaucoup défendu Neymar tout l'été et je continue de le faire aujourd'hui, même si je le dis, il a des défauts comme tout le monde. Ça s'appelle un défaut, Daniel, d'être peut-être un peu provocateur, d'être un peu
mais c'est comme sa personnalité. Pourquoi c'est un défaut?
Non, mais
c'est sa personnalité, c'est un défaut, c'est grave.
Mais, défaut, t'as des défauts, j'ai des défauts.
Bah ouais, peut-être
que ça peut être un défaut, c'est pas pour ça que, comme tout. Tu dis,
on pourquoi peut parce qu'il est chambreur. Parce qu'il est chambreur, c'est
Daniel,
un défaut.
Daniel dit.
Parce que sur le terrain, il est chambreur, ça, c'est un
Daniel,
défaut.
Daniel dit. Mais Jérôme, le problème, Daniel c'est ce que c'est toi, tu t'impliques à 100%. Parce que sur le terrain, t'étais chambreur et tu te faisais insulter par une tonne de mecs qui t'aimaient pas en Ligue 1 à cause de ça.
Et alors,
ça mais t'es pas obligé de défendre un mec juste parce que tu peux avoir un peu de recul dans la vie, Jérôme.
Et les gens qui pensaient que j'étais un gros con, bah écoute, c'était leur choix.
Alors, ça arrive, mais tu peux les comprendre.
Et il y en avait d'autres qui pensaient que j'étais pas un gros con. Et alors, bah chacun, tu peux pas plaire à tout le monde quand t'as cette personnalité-là.
Ça veut pas dire un petit peu de recul et comprendre mais le recul, que ça puisse faire chier des gens.
Mais je peux le comprendre, mais comprends aussi tu peux avoir aussi un peu de recul et comprendre que moi ça me plaît. En fait, ces personnalités-là.
Mais ça te plaît parce que tu fais une assimilation.
On arrête, les gars.
Mais une assimilation, je me prends parce pas pour Neymar. Bah j'étais pas Neymar. Mais excuse-moi, j'avais pas le talent de Neymar.
Mais si
j'avais
pu faire. Le jeu, je te dis dans la parce que tu chambrais.
Mais ce que t'aurais pu faire.
Mais si j'avais pu faire le sombrero aussi, je peux te dire que je l'aurais fait plus d'une fois sur les matchs.
Mais si tu t'étais fait le sombrero, t'aurais pu.
Et alors, j'en ai pris des tacles. Et alors, je suis jamais
pleuré.
On est rentré dans les 10 dernières minutes. Et pour l'instant, le Havre mène toujours 1-0 depuis le but de Jamal Tiaré à la 53e minute. Et les Grenoblois qui pour l'instant peuvent se mordre les crampons tout simplement parce que ils ont eu deux grosses occasions. La première, c'est un coup franc de Jesse Benet et c'est Mathieu Gorgelin qui est allé le chercher au ras du poteau. Superbe arrêt de gardien du Havre. Et puis la deuxième tentative, elle est signée de Dité, mais là sur la reprise, il n'a pas été assez précis, assez puissant pour aller tromper le même gardien, Mathieu Gorgelin. Et donc on en reste à 1-0 pour le Havre ici, alors qu'il va y avoir un pénalty pour les Grenoblois, à moins que ce soit l'entrée de la surface de réparation. On en reste à 1-0, qu'est-ce qu'il va y avoir?
Pénalty, il y a main là.
Ah, il y a main, il y a quelque chose. En tout cas, est-ce que c'est juste à l'extérieur de la surface ou pas? En tout cas, toujours.
Il a indiqué le point de pénalty.
Vu ce qu'il a fait au Goula, il y en a qui verra, il dit quoi, regarde ici.
Ah, il a signé pénalty.
En tout cas, il s'est complètement trompé. Cette main à bout portant, jamais tu dois la siffler, mais bon.
Alors, en tout cas, il n'y a pas de VAR.
Tout le monde a des défauts.
Il va y avoir un pénalty pour Grenoble à 6 minutes de la fin.
Putain, je te l'aurais insulté, moi, le gars Angoula, là.
Donc, vous me dites si on suit ça ou pas.
Gilbert, avant le pénalty. Avant le pénalty, Daniel, le seul truc qui est un peu, on va dire, amusant, c'est qu'ici, à l'after, t'es un peu le Neymar. T'aimes bien être provocateur. T'aimes bien aller dans la provocation.
Mais à quel moment, Kevin?
C'est un peu toi, le Neymar, dans l'after.
Donne-moi un exemple.
Les gens qui analysent le foot et qui comprennent pas aussi qu'il peut y avoir du chambrage dans le foot, et ben, je trouve ça grave.
Qui dit que
en fait, il faut mettre tout le monde.
Jesse Benet face à Mathieu Gorgelin pour l'égalisation possible, potentielle, là, pour le GF 38, Gaël Angoula, qui demande à tous les joueurs d'être à l'extérieur de la surface de réparation. Le pénalty va-t-il être tiré? Jesse Benet face à Mathieu Gorgelin, que dit Gaël Angoula? Eh bien c'est bon, les deux acteurs peuvent se mettre en place, surtout le tireur Jesse Benet, et c'est au fond, même si Mathieu Gorgelin était sur la trajectoire. Et donc égalisation à 5 minutes de la fin du GF 38 face au Havre, qui avait ouvert le score à la 53e par Jamal Tiaré. Et bien là, du coup, Jesse Benet qui transforme ce pénalty à la 86e. Un partout, tout reste à faire pour le Havre qui voulait venir gagner ici et qui tenait cette victoire. Mais voilà, il y a ce pénalty qui égalise, qui fait égaliser les Grenoblois.
Dans quelques instants, les drôles de dames, le foot européen, c'est tout de suite à l'after. Bougez pas, on revient dans quelques instants.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, comme tous les lundis, comme tous les soirs, bien sûr, l'after est en direct. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Kevin Diaz, et tout de suite, les drôles de dames. Et oui, elles sont là pour le point foot européen du lundi, évidemment. On va accueillir, comme il se doit, Paulo Breitner. Paulo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Julien Laurence. Julien, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Fred Hermel, bonsoir.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Non.
Pourquoi donc Fredo?
Bah je viens de prendre un coup dans la gueule, mais énorme.
Lequel?
Bah 50 ans, aujourd'hui.
Ah.
Ah ouais, là c'est la descente hein.
T'es muté à Rostock? Là,
pardon?
T'es muté à Rostock?
Non, mais ouais, c'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Après, 50 ans à Madrid, il y a pire dans la vie. Enfin, à 50 ans, c'est... t'es plus un jeune, quoi.
Ouais. Ah bah oui.
C'est-à-dire que tu te présentes, t'es gars à 50 ans. Enfin, tu vois,
mais c'est aujourd'hui, commencer. Fred.
C'est aujourd'hui même, le 3 février. Ouais.
Félix Campéa,
bon anniversaire, Fred, je savais pas.
Félix amigos.
Oh là là.
Mais c'est dur à vivre, c'est dur à vivre, je veux dire.
T'inquiète, moi, c'est bientôt. Je te rejoindrai.
C'est quand?
Mois d'avril.
Ah, t'es un petit jeune, toi.
Et t'arrêtes quand à la fin de l'année?
Non, bah, je suis pas cheminot. Je suis pas cheminot, donc je termine pas tout de suite.
Le journaliste à la cheminot, c'est 90 ans.
C'est dans deux ans si t'es cheminot.
Moi, c'est 65 ans, moi. Mmh. Moi, j'ai commencé à bosser très vite, très tôt, donc, mais je peux même vous dire qu'avec la, moi, si la réforme des retraites, si la réforme des retraites me concernait, c'est pas le cas parce que je suis trop vieux, bah, je pense que je pourrais partir à la retraite avant parce que j'ai commencé à bosser très, très tôt, moi. Mais voilà, et j'ai cotisé pour des trucs qui me tiennent. Enfin bref, on va pas faire de politique, mais c'est tous les boulots que j'ai fait où j'avais pas assez d'heures pour avoir des trimestres. Bah, c'est toutes ces cotisations-là, je les ai perdues, quoi. Mais bon, moi je serais ravi d'être là jusqu'à 65 ans, voire plus si affinité. Hein.
Bah, évidemment, Zidane sera encore là, Benzema bah, sera
je pense que Zidane sera à sa 15e Ligue des Champions.
Bon, enfin, moi je trouve que t'es toujours jeune, Fred.
Ouais, voilà, écoute, mais tu sais, être à l'after, ouais, être sur RMC, qui est une radio dynamique, ça t'empêche de t'encrouter. Puis t'es avec des petits jeunes comme Simone Rovera, tu vois, comme Julien Laurence.
Alors, attends, on va accueillir Simone dans quelques instants, parce que Simone est quelque part un peu spécial ce soir. Mais juste avant, léger hommage quand même à Fred Hermel. 50 ans, et 50 ans de dinguerie aussi, Fred, puisque ça donnait ça quand même.
Hola chicos, c'est Frédéric Hermel.
Hola Madrid, hola Madrid, campo de estrellas, donde crecí. Sale el Madrid a jugar, sale el Madrid a ganar.
Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, quelle va être la ligne éditoriale de Daniel Riolo d'ici à la fin de la saison. C'est de casser tout ce qui va venir d'Espagne
que ça
et de mettre sur un piédestal tous les joueurs qui ne sont plus au Real Madrid. Pour dire, oh là là, Real Madrid, ils sont nuls, c'est parti.
He told me that Schuster told him, OK, you're here to defense, to help the defense, to be the first defender before the defense. What we need, it's an offensive midfield close to him, able to receive the ball and to give the pass.
J'ai pas dit franco-madridiste. J'ai dit franco-madrilène.
Oui, mais enfin,
je parle de la ville, pas d'un club.
Bueno, con muy poco, el Real Madrid está ganando mucho. Tres puntos de momento. Tres pulsos que vuelve a salvar a este señor que vemos en el banquillo.
Zidane, mais il est con ce Vinicius ou quoi?
Oh les vieux
voilà.
Dossiers.
Voilà,
oh, c'est gentil les amis, c'est mon plaisir.
Ah non.
Il en manque un,
vous l'avez pas mis.
Ah ouais, il en manque un.
Ça c'est Paul Vecchio, il est.
Oh non, alors là non, là non.
Paul Vecchio était quelqu'un qui m'aime et qui veut pas me faire du mal le soir de mes 50 ans.
Non, là franchement, si on n'a pas le, t'as pas le droit avant Noël.
Non, mais là c'est les 50 ans de Fred.
Non, mais les auditeurs le réclament et à cause de Fred et parce qu'on va être gentil avec lui, on le remet pas. Alors que il suffit qu'il ouvre la porte à ça et on a un moment culte.
On n'est pas le lendemain d'Épiphanie.
On m'en fout, je le remettrai.
Paul Vecchio est un ami qui m'aime, il veut pas faire du
mal. On le mettra pour les 50 ans de Daniel.
Ah ouais, ça c'est bien, voilà, cadeau.
Oui, mais une fois qu'il repassera, il sera là très souvent. Là, tu peux pas me faire ça avant Noël.
Ouais, ça c'est vrai.
Tu peux
que c'est
pas me faire ça avant Noël, elle était belle celle-là.
Messieurs, on peut maintenant accueillir Simone Rovera. Simone, bonsoir.
Oh là là.
Ciao, buonasera, bonsoir. Tanti auguri, Fred. Tanti auguri a te.
Grazie mille.
Tanti auguri a te.
On a hâte de chanter, Simone, c'est mieux.
Coupez du micro.
Alors, on va d'abord s'occuper de l'Italie avec Simone. Pourquoi? Parce que Simone, figurez-vous, est en voyage pour RMC Sport. Le gars est en Argentine, tranquille. Il est parti la nuit dernière, il est arrivé en Argentine.
La nuit dernière, vous savez, il s'est déjà fait au moins 2-3 barbecues. Là. Les asados, là, ça a dû tomber déjà. Là.
C'est un peu une colonie aussi, quand même.
Non, Argentine. Un déjeuner.
Oui, c'est vrai, l'Argentine, c'est une succursale.
Alors, que fais-tu en Argentine, Simone?
Mais là, attends, c'est 18h35, donc je vais dîner après.
Bon, mais sinon, pourquoi t'es là-bas? T'es pas là-bas en vacances, t'es là-bas pour le boulot.
Ben non. Vous allez retrouver des très belles interviews sur les prochaines semaines sur RMC Sport, comme Hernan Crespo, Juan Sébastien Véron, Javier Mascherano, Diego Alberto Milito, donc du beau matériel.
Voilà, et tout ça, c'est Simonet qui s'en occupe, bien sûr.
Et c'est pour un prochain transversal.
Voilà.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Alors, c'est du coup, vu qu'il y a un petit décalage, on
sur qui,
quand
tu veux pas
parle.
Dire sur qui
T'as bien de le dire, là, il vient de faire la liste.
Sur l'entraîneur qui a mis en couche à Pep ce week-end.
Et donc
Non, là, tu es dans mon moment, elles sont, mais c'est pas, bon. C'était pas
justement,
ça. En fait.
C'est ce que je voulais éviter. C'est que, comme il y a un petit décalage avec Simonet, on va traiter des questions d'Italie maintenant, puis après, on va le laisser tranquille aller à son dîner, parce que c'est important, les dîners pour Simonet, vous le savez. Tu voulais nous parler, pour résumer le week-end italien, des nouveaux records de Cristiano.
Bah oui, parce que ça continue à vieillir, mais elle vieillit toujours mieux, un peu comme Fred, à l'hommage de Fred, qu'il batte un record qui arrive à la hauteur de David Trezeguet avec son 9e match consécutif avec au moins un but marqué. Il rejoint ce week-end les 50e but avec les maillots de la Juve, et ça, imaginez, en 70 matchs. Donc, au final, on a parlé un peu cette année que ça commençait mal, que l'année dernière, il avait besoin de s'adapter. Plus l'année passe, et là, peut-être, Daniel dira qu'il y a aussi un niveau de la Ligue, de la Serie A qu'il considère plus faible, et ça aide Cristiano à continuer à performer à 35 ans. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de joueurs, et seulement Shevchenko, sur les 25 dernières années, qui est arrivé à 50 buts en Serie A avec moins de matchs. Lui a 50 buts avec toute compétition confondue depuis son arrivée en Italie en 70 matchs. En Serie A, il est à 40 buts en 50 matchs. Pour moi, ça continue à être lui le vrai et le seul patron de la Juve qui gagne 3-0 face à la Sampdoria.
Cristiano.
Mais c'est des stats. Le football par les stats. Moi, j'aimerais bien savoir comment joue la Juve et comment Cristiano Ronaldo effectivement revient en forme un moment où qui va devenir important pour l'équipe parce que l'équipe en ce moment est beaucoup critiquée en Italie, que les supporters sont dans une période un peu de bouderie par rapport au club à cause des sorties de Sarri, à cause du jeu, qu'il y a un mouvement dans les supporters de la Juve et qui dit, je dis pas que ça va arriver, mais vous savez les mouvements parfois de supporters qui disent redonnez-nous Allegri parce qu'on veut plus de Sarri, que Ronaldo a pas toujours été super pote avec.
Matuidi un peu un bouc émissaire.
Alors attends, tu vas répondre Simonet, mais juste c'est fini à Grenoble entre Grenoble et Le Havre, Edouard.
Ouais, un score de parité logique, l'ouverture de Le Havre était logique à la 53e partie arrêt, l'égalisation sur penalty de Jesse Benet à la 86e, également mauvaise opération pour Le Havre. Et qui reste au pied de la série des 5 premiers pour être sur les barrages de Ligue 2 au final. Un partout donc au final.
Tu voulais dire un truc à Fred ?
Oh, je voulais juste le saluer. Hein. Et tu verras, Fred, à 50 ans, ça se passe bien. T'inquiète.
Bah, si je suis toujours aussi en forme que toi, ça me va.
Merci Edouard, merci, bonne soirée. Tiens. Alors, la réponse de Simonet à Daniel sur la Juve.
Non, c'est vrai que Sarri continue à chercher de nouvelles formules sans trouver peut-être encore celle qui va être la Juve définitive. Hier, il a joué avec Douglas Costa, on peut dire numéro 10. Il avait cherché plusieurs fois de mettre Ramsey à ses postes. Dybala, il a joué 30 minutes hier et Sarri a été obligé de dire c'est blasphème de laisser Dybala sur le banc des touches. Mais je dois faire des choix. Donc, on a vraiment l'impression, je le répète presque chaque semaine, que Sarri, bien sûr, n'a pas encore séduit, conquis les supporters, mais surtout, n'a pas encore trouvé sa Juve. Il continue à chercher. Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle on est sûr à certaines, c'est les milieux de terrain avec Pjanic, Bettencourt et Rabiot, qui a fait probablement un de ses meilleurs matchs, voire les meilleurs ces week-ends. Et derrière, petit à petit, et c'est la plus belle des nouvelles, c'est le retour de Chiellini qui s'est réévalué à la fin du mois. Il a été inscrit dans la liste Ligue des Champions. Donc on peut dire aussi que la Juve, si Chiellini va être évalué à la fin du mois et Chiellini quand même est dans la liste Ligue des Champions, ça veut dire que la Juve croit vraiment d'avoir en Chiellini un renfort pour quart de finale.
Avant, il faudra passer le 8e. Mission Juve.
Parle-nous un peu de la Lazio là, qui continue sa marche en avant. Ça commence à devenir très sérieux de semaine en semaine.
Ben, mercredi, la Lazio va jouer un match en retard face à Verona. S'il gagne, passe devant l'Inter. Attention, parce que Verona, quand même, c'est dans les places européennes et c'est pas un adversaire très simple.
Immobilier a encore mis un doublé. Il peut battre les records d'Higuain. Vous vous souvenez, 2015-2016, il avait marqué 36 buts en 35 matchs. Là, Immobilier a déjà 25 buts en 21 matchs de Serie A. 6 buts devant Cristiano, 9 devant Lukaku. C'est vraiment l'homme qui touche, chaque ballon qu'il touche, il marque des buts. C'est le joueur qui a plus de tirs cadrés cette année en Serie A. 73% des tirs sont cadrés. Donc, c'est vraiment dans un moment magique. Et en plus, c'est parfait pour le jeu d'Inzaghi, je l'ai dit. Souvent, les 3-5-2 avec Immobilier, attaquant seul avec une autre qui tourne à côté de lui, que ce soit Caicedo, soit Correa, c'est vraiment le meilleur des systèmes pour le meilleur des joueurs, au-delà de la force de Milinkovic au milieu, de la qualité de Luis Alberto, de la solidité défensive. Mais la Lazio, s'il continue comme ça, sans Coupe d'Europe en deuxième partie de saison, pour moi, on va continuer jusqu'à la fin à embêter sûrement la Juve. On verra si l'Inter continuera à être là-bas.
Très bien.
Ça ne me convient pas trop. Je ne suis pas trop convaincu de l'Inter, même après la victoire face à l'Udinese.
Ok, Simone, puis tu voulais nous dire un mot de Milan également pour conclure.
Oui, deux choses sur Milan qui s'arrêtent un peu la série d'or avec Ibrahimovic. Mais Ibrahimovic était malade, avait la fièvre, il n'a pas joué ce week-end. Donc, c'est aussi pour l'absence d'Ibra qui s'arrête la série des trois victoires consécutives du Milan. Mais au final, dans cette match nul face à Verona, on peut trouver une histoire très belle à raconter. Et c'est le début de Daniele Maldini. Bien sûr, c'est le fils de Paolo, le neveu de Cesare. Donc, c'est le troisième Maldini qui débute sa carrière avec Milan. On verra s'il aura la force, la chance.
Et on en a parlé brièvement hier, mais il est aussi fort que les autres ou
Non. Moins. Alors, ce qu'on me dit de secteur des jeunes du Milan, c'est qu'il est un très bon jeune, mais il a la qualité pour être un bon joueur de Serie A, à part pour devenir un fuori classe comme les pères et les grands-pères. Mais on a tout le temps de voir. Déjà, c'est un joueur offensif. C'est pas un défenseur comme les deux autres. Et il y a une autre dynastie en Serie A qui avait eu les grands-pères, les pères et les fils qui ont joué, c'est celle des Cudicini, les gardiennes qui a joué aussi à Chelsea,
oui.
Les grands-pères, Guglielmo, qui était milieu de terrain, si je ne me trompe pas, ou défenseur, et Fabio et Carlo étaient gardiennes.
Merci Simone.
Ciao.
On se retrouve très vite pour évidemment tout ça, l'actu italienne, et puis tu nous raconteras ton voyage footballistique en Argentine dans quelques instants, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, bien sûr, avec les droits de l'âme, pendant encore une bonne demi-heure. Et ensuite, Julien Cazard nous rejoindra. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Bretel, avec Kevin Diaz, avec les drôles de l'âme. On y va, messieurs dames, Angleterre, Allemagne et Espagne. Bien sûr. Mon petit Julien, José a encore battu Pep. Et ça, évidemment, les Anglais ne retiennent que ça.
Effectivement, alors c'est pas non plus très fréquent hein, sur les 23 confrontations entre Pep et José, c'était simplement la 6e victoire.
Bon, c'est bien la peine de nous rabattre les oreilles alors.
Non, mais c'est une victoire importante parce que même si tous les deux et surtout Pep avant la rencontre ont un petit peu voulu la jouer, non, mais il y a plus trop de rivalité entre nous, c'est plus comme avant, c'est pas comme quand on était en Espagne, etc. T'as quand même senti un moment. Mourinho Wenger en tout cas en Angleterre, José Arsène effectivement, mais surtout le José Pep, Fred sera d'accord avec moi de l'époque Real Madrid Barça, c'était quand même super toxique.
Ça peut pas être aussi fort et aussi violent.
Tout à fait. Donc hier, c'était plutôt amical, on va dire. En tout cas, au début, on a quand même eu du très grand Mourinho, notamment sur le penalty arrêté par Lloris et puis le plongeon de Sterling, puisqu'il a pas eu un penalty après. Et quand Mourinho s'est assis, Joao Sacramento, son adjoint, l'ancien Lillois, lui a rappelé que Sterling avait déjà eu un carton jaune, qui aurait pu être rouge d'ailleurs pour un tacle trop engagé sur Dele Alli, et donc Mourinho s'est relevé tout de suite en disant non mais il faut un deuxième carton jaune. Il a fait un cinéma incroyable, mais c'est vrai que c'est une victoire qui va beaucoup compter, je pense, pour Mourinho, pour Tottenham aussi, pour Hugo Lloris, pour son troisième match de retour après sa blessure.
Qu'est-ce qui lui est arrivé, Julien? On l'a jamais vu comme ça. Il était en transe. Il a failli se battre.
Il était en transe, effectivement, ouais. Alors je lui ai posé la question après le match sur RMC Sport. Il a dit qu'il avait senti que Sterling avait un petit peu abusé dans la façon dont il s'était jeté pour aller chercher le penalty, que ça l'avait un peu énervé, qu'il aurait peut-être pas dû réagir comme ça. C'est vrai qu'on l'a rarement vu perdre un petit peu son calme, Lloris, comme il l'a fait dimanche après-midi. Mais c'est vrai qu'il venait d'arrêter un penalty, il était super chaud et c'était un match très important pour Tottenham qui est donc revient avec cette victoire à 4 points de la 4e place et de Chelsea. D'ailleurs, ils se rendront à Chelsea à la fin du mois, là, le 22 février.
Bon, après, effectivement, ça fait toujours impression et ça marque les esprits parce que les deux entraîneurs, belle affiche, mais je vois pas en quoi Tottenham a beaucoup progressé à travers ce match-là.
Pas du tout.
City a perdu le match qui leur arrive un petit peu trop régulièrement cette année de perdre, c'est-à-dire je domine, je rate des occasions qui sont parfois à la limite du surréalisme, comme quand Lloris se tamponne avec le défenseur, le ballon qui revient, la passe, le mec qui Gundogan qui est trop court. Hein. Tu demandes même comment c'est possible, sans parler d'autres occasions ratées, et évidemment du pénalty que Gundogan a tiré d'une façon assez hallucinante, bon, et que Lloris a très très bien capté, du péno qui, sur l'action qui suit, aurait pu être redonné immédiatement. Bon, à l'arrivée,
le carton rouge et le carton rouge.
Voilà.
Et d'ailleurs, tu sais
à l'arrivée, Tottenham gagne le match. Oui, je sais pas si ça peut beaucoup les rassurer, mais quand on bat City, quand on bat Guardiola, ça fait toujours un événement planétaire. Ça donne beaucoup de satisfaction. On s'arrête pas aux faiblesses de City parce que il y en a, mine de rien, il y en a. Il y a toujours ces problèmes défensifs. Il y a toujours Otamendi en défense qui vieillit chaque fois à chaque sortie. Il y a toujours ce milieu de terrain qui est privé de Fernandinho. Il y a certains choix de joueurs ou peut-être des mecs qui sont un peu moins en forme. Il faut aussi dire que City est vraiment moins fort cette année quand même. Hein. Et c'est aussi une réalité, ça.
Zinchenko, il prend son premier carton au moment de l'altercation avec Lloris et
il est pas mal ce petit joueur.
Tout à fait.
Bonjour Zinchenko.
C'est un bon joueur.
Il est passé par les Pays-Bas.
Sauf qu'il saborde son équipe.
Ouais. C'est-à-dire, il a
deuxième carton jaune
aux Pays-Bas, c'est ça.
Ouais.
Hein. Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai qu'après, il a emporté, il fait une connerie, ouais, bien sûr.
Allez, mais t'as raison, là, juste sur le pénalty rapidement, parce que c'est symptomatique, c'est le quatrième pénalty raté sur les six derniers. Je sais pas comment tu peux rater autant de pénalty.
Mais ça, j'allais le dire, les mecs, à un moment, trouvez-vous un tireur,
tu peux pas
rater autant de pénaux. Dans un match comme ça, mener 1-0, bon, c'est quand même pas rien, quoi. L'autre va être peut-être un peu obligé de bouger, ça va te donner un peu d'espace. Tu peux pas rater le péno. Enfin, ils en ratent beaucoup trop. Et c'est le bon tireur, Gundogan, pour tirer un péno aussi.
Comme Agüero et Gabriel Jesus avaient déjà raté cette saison, c'était un petit peu son tour. Et rappelez-vous, la saison dernière, en Ligue des Champions, en quart de finale, aller, Lloris arrête le pénalty d'Agüero à 0-0 du même côté.
C'est vrai. Ouais. Mais Julien, tu sais, c'est un des problèmes du management de Pep Guardiola où il y a tellement de turnover qu'au final, il n'y a pas vraiment de titulaire indiscutable dans cette équipe. Bon, il y en a quelques-uns, mais assez peu. Et donc, au final, tu peux pas avoir un tireur de pénalty puisque c'est jamais,
Si tu fais tirer De Bruyne, t'es sûr qu'en majorité du temps, il est sur.
Dans quelques instants, on revient en Angleterre, parler notamment de Liverpool, de Solskjaer. Mais d'abord, mon petit Polo, donne-nous les news du Borussia Dortmund à maintenant 15 jours du choc.
Écoute, c'est très intéressant dans le sens où Haaland était titulaire, titulaire encore une fois dans un 3-4-3, c'est-à-dire
c'est qui
c'est Hazard qui a morflé, c'est très intéressant parce qu'on passe en fait dans une semaine anglaise là, parce qu'il va y avoir un match de Coupe d'Allemagne avant le déplacement important le week-end prochain à Leverkusen qui sera pour moi un vrai test en fait sur ce entre guillemets nouveau Borussia Dortmund. Parce qu'en fait Lucien Favre n'a pas arrêté de nous vendre sa défense à 4 et donc en gros qu'Akanji allait sortir, que Zagadou allait être titulaire une fois qu'il sera opérationnel avec Mats Hummels, que par exemple Emre Can allait être en numéro 6, etc. Et on avait les 4 de devant. Et en fait, il est resté dans une défense à 3 et c'est Hazard qui a morflé, mais on ne sait pas, c'est pas un turnover par rapport à cette semaine anglaise justement qui arrive. Ce qui est impressionnant, c'est que évidemment le Norvégien continue d'empiler les buts. Hein, c'est encore un doublé contre l'Union de Berlin. Mais surtout, il y a un autre jeune qui est anglais, qui n'est pas le plus mauvais joueur sur la planète en ce moment. Dont on parle beaucoup moins. Parce que, évidemment, le Norvégien capte toute la lumière en ce moment en Allemagne. On parle beaucoup de l'attractivité, une nouvelle attractivité de la Bundesliga, ou la nouvelle attractivité des attaquants en ce moment, parce que Lewandowski, Hollande, etc., il y en a d'autres en Allemagne. Le Piatek qui est arrivé au Hertha Berlin, ou Schmidt qui marche bien à Leipzig, etc. Et en fait, Sancho à 19 ans est juste dans la forme olympique de sa très jeune carrière. Il bat tous les temps de passage. Il en est à 12 buts et 13 passes décisives sur les 9 derniers matchs, y compris le match contre le Slavia. C'est 9 matchs, 9 buts, 7 passes décisives. Alors j'aime pas trop les statistiques, mais c'est assez parlant, je trouve. En plus, il est un peu libéré du fait de marquer puisque Hollande est là, et donc il est toujours soit en position d'ailier essentiellement sur le côté droit, soit il joue en faux numéro 10 comme le dit Lucien Favre, et ça laisse aussi de l'espace pour Marco Reus. Offensivement, le Borussia Dortmund, c'est pas mal du tout, et je me fais l'avocat d'Urs Fischer, le autre Suisse et le coach de l'Union de Berlin. Il dit ce qui est impressionnant offensivement avec le Borussia Dortmund, c'est qu'il trouve toujours une solution en attaque. Mmh. Le problème, c'est que nous, on regarde les 90 minutes, on dit 5-0, ok, il n'y a pas une match. Sauf qu'il y avait 2-0 à la mi-temps, et à la reprise en deuxième mi-temps, si tu veux, pendant un quart d'heure, bah, ça a flotté complètement au Borussia Dortmund. Et là, l'Union aurait pu revenir. Et comme c'était une équipe extrêmement physique, bah, si tu veux, le Borussia a souffert. Mais à la fin, ça fait 5-0. Il y a eu évidemment polémique avec les sorties d'Hakimi et Marco Reus jetant son brassard, etc. Et c'est d'ailleurs en Allemagne on l'a repris ça parce qu'on a fait un parallèle évidemment avec le PSG et la discussion entre Mbappé et Tuchel. Et si tu veux, ça a un petit peu, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'il y a ceux qui disent oh c'est inadmissible, comment on mettait largement déjà 4-0.
Mais ça arrive aussi dans les autres clubs, hein, c'est bizarre. Enfin.
Mais oui, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un journaliste qui d'ailleurs est souvent en Angleterre, c'est Nick Stein, que le connaît Julien peut-être. C'est que ça le gars, il dit mais attendez, ça fait 18 mois que vous dites au Borussia Dortmund, il n'y a pas de leader. C'est toujours des gentils, des ceci, des cela. Ils savent pas se rebeller quand ça va pas. Et là, quand il y a des mouvements, des traits de caractère qui se montrent, comme Marco Reus ou Hakimi, parce qu'ils sont pas contents de sortir, ouais. Vous les lynchez en place publique. C'est-à-dire que c'est ça que moi aussi qui me plaît dans ce qui se passe en ce moment. Mais je suis toujours en attente un petit peu de cette défense à 4 qui me semble beaucoup plus sereine dans l'objectif d'un affrontement évidemment avec le PSG.
Ah, le problème, Polo, c'est l'adversité, quoi. C'est tout. C'est qu'en ce moment, mais tu l'avais dit, hein, ces trois matchs là de reprise. Était assez...
Le calendrier est parfait.
Ouais, le calendrier dis... était bien. Là, ils ont pu se rassurer. Ils ont mis 15 buts en 3 matchs.
19
ouais.
Minutes à l'entrée.
Bah non, mais après, il y a.
Moi, on s'en fout. C'est Willy a dit qu'il prendrait 2 fois 4-0. Donc,
moi, qui... Ah oui, c'est vrai que Willy a dit qu'il prendrait cher à Dortmund. Mais...
D'accord. Je le note. Je rappelle juste que le Borussia Dortmund est invaincu à domicile cette saison, toute compétition confondue. Et il faut revenir à l'année dernière.
Oui, mais là, ce sera 4.
Oui, là, ce sera 4.
Okay. Pire.
Donc, ça sera 4 défaites d'un coup. Mais c'est bien, j'adore ça. Ça m'embouche un coin d'ailleurs d'entendre des trucs comme ça.
Prends le temps de te remettre. On revient dans quelques instants pour parler de Leipzig.
Pour parler du
Werder, de Rummenigge, mais aussi du Barça, de Lemar, et puis de cette histoire folle de VAR de deux Espagnols qu'on a raconté hier.
Bien fait, Lemar.
Lemar, il faut appeler Pierre Ducran.
Bah ouais.
Bah oui, mais là, on a Fred Hermel. C'est mieux. Que lui, il est à Madrid.
Oui, mais Pierre Ducrot, c'est plus.
Jérôme,
il s'est mieux.
Qui est mieux informé que Pierre Ducrot sur le dossier?
Jérôme, tu reviens demain?
Si vous voulez, vous bossez qu'avec des agents. Non, c'est bon, hein.
De quoi?
Tu peux me faire ça le jour de mon anniversaire.
Non, on te fait confiance. De toute façon, Pierre Ducrot, il sert à rien. Là. Il a pas réussi à le faire partir. Donc.
Jérôme, demain, tu seras là dès la fin de Nantes PSG. Dans quelques instants.
Pourquoi il part, Jérôme? Le quiz, il va rater le quiz.
Ben oui, mais non, mais Jérôme, le lundi, c'est pas le quiz. C'est pour Kevin.
Ah, il veut une heure de sommeil en plus parce qu'il sait que demain il va morfler.
Écoute, pour te dire, je vais même jouer demain matin pour être fatigué un peu contre toi.
Ah, il y a un match de tennis, Rio Rodel.
Tu cherches une excuse au préalable déjà.
Allez, à demain.
Très bien.
À demain soir, Jérôme, dans quelques instants, nous on revient avec les drôles de l'âme et Julien Cazard.
RMC, 21h minuit, l'after foot.